Bonjour à tous. Alors, on reprend les choses. Vous avez la feuille d'accompagnement ? Très bien. Bon, nous avons vu la dernière fois, en examinant la position de Brian Ellis, à quel point il pouvait être tentant de considérer que toutes les propriétés sont dispositionnelles, peut-être même essentiellement dispositionnelles. Et donc d'embrasser une forme d'essentialisme dispositionnel comme celui qu'il préconise. Donc peut-être qu'il importe aujourd'hui de reprendre un peu nos esprits et de voir si cette approche, qui a bien des mérites, ne comporte pas aussi tout de même pas mal de difficultés, et dont j'examinerai aujourd'hui certaines avant de les reprendre la semaine prochaine en abordant plus précisément la question de la manière dont nous devons entendre les relations entre disposition et loi. Donc commençons par les fleurs, commençons par les mérites de l'essentialisme ou dispositionnel, ou ce que certains appellent même le pan-dispositionnalisme, c'est-à-dire la thèse selon laquelle toutes les propriétés seraient non seulement dispositionnelles, mais même peut-être essentiellement dispositionnelles. Bon. Plusieurs avantages évidents sont en effet à mettre à son actif. Bon, le premier que nous avons évoqué est logique et linguistique. Nous l'avons vu en reprenant la discussion des arguments de Mellor, de Mumford et de Pryor. Il semble bien possible d'analyser, en tout cas, tous les prédicats sous la forme de conditionnel, quelles que soient quand même les difficultés, mais en conséquence, et même si cela est ardu, de donner une analyse dispositionnelle, peut-être bien de toutes les propriétés, y compris si on accepte la position de Mellor, donc même de la triangularité. Vous vous souvenez ? Bon. Donc de propriétés qui, d'emblée, nous apparaîtraient plutôt comme des propriétés catégoriques. Mais plusieurs autres mérites de l'approche dispositionnaliste, d'ordre épistémique, scientifique et métaphysique, semblent tout aussi peu contestables, même si ils ont fait l'objet, on va le voir, d'attaques musclées. Bon. Donc, l'avantage métaphysique est évident aussi, naturellement, parce que il est toujours avantageux en métaphysique comme dans la vie de faire des économies. Or, si le monisme dispositionnaliste est juste, eh bien, alors rien ne nous oblige à accepter quelque dualisme ontologique que ce soit, et en termes de coût, donc nous y gagnons, puisque nous parvenons à une ontologie plus parcimonieuse, sans rien perdre, en termes de portée explicative. Mais deux autres mérites de l'approche doivent plus particulièrement retenir notre attention. Le premier, qui nous tient à cœur dans le cadre du défi de l'intégration que nous souhaitons relever, c'est de rendre paradoxalement plus intelligible notre accès cognitif au monde. Je m'explique. S'il est vrai, en effet, que l'expérience d'une propriété passe nécessairement par celle des pouvoirs que cette propriété confère aux objets qui la possèdent, et que l'observation présuppose une relation causale entre un observateur et ce qu'il observe, alors l'accès épistémique aux objets suppose des propriétés causalement efficaces, en d'autres termes, des pouvoirs. Si nous ne faisons l'expérience des propriétés que par leurs effets, et la différence entre elles, que par les différents effets qu'elles produisent sur nous, alors, de fait, il faut que les propriétés soient efficaces. En d'autres termes, que ce soit des pouvoirs causaux. Deux éléments semblent en effet déterminants. L'impact causal de la propriété sur l'observateur, nécessaire à son expérience. Le rôle causal de la propriété relativement aux autres propriétés en général. Bon, sans doute n'avons-nous pas accès aux dispositions elles-mêmes, qui ne se manifestent pas, mais nous avons bel et bien un accès épistémique à certaines de leurs manifestations ou certains de leurs effets réels. On pourrait presque dire que le supposé mystère qui était censé engendrer les dispositions a changé de camp. Car nous disposons désormais d'une condition d'identité transmondaine pour les propriétés, on pourrait dire une mêmeté d'essence dispositionnelle. Au contraire, refusons de dire que toutes les choses sont dispositionnelles et admettons des propriétés catégoriques, nous serions alors voués à invoquer quelque chose comme une identité primitive. Bref, quelque chose qui pourrait être posé indépendamment de tout lien causal ou nomologique, et nous serions inexorablement entraînés alors vers ce qu'on appelle classiquement le quiditisme. Or, à tort ou à raison, j'y reviendrai, le quiditisme peut être considéré comme problématique pour au moins deux raisons. D'abord, parce qu'il permet pour les propriétés l'échange de leurs pouvoirs causaux, par exemple des propriétés qui remplissent réellement le rôle de charge et celui de masse, pourraient purement et simplement échanger ces rôles, comme le dit Lewis, pour produire un nouveau monde possible. Or, il y a de bonnes raisons de douter de la possible duplication des rôles causaux. Ce que je veux dire par là, n'est-ce pas, c'est qu'il est douteux que plusieurs propriétés puissent avoir le même rôle. Ensuite, le quiditisme a pour conséquence fâcheuse d'induire un scepticisme généralisé quant à la possibilité de connaître quoi que ce soit des propriétés du monde. Il nous condamne à l'humilité, comme le reconnaît du reste David Lewis, mais qui ne craint pas, comme on le sait, de revendiquer, je cite, « une ontologie fondamentale extraordinairement austère ». Fin de citation. J'aurai l'occasion de revenir sur cette humilité louisienne qui, à bien des égards, est très proche, finalement, de l'humilité kantienne. Souvenons-nous, en effet, du point de départ, quand même, louisien, que j'avais évoqué en partie la semaine dernière. Pour Lewis, tout ce qui existe dans le monde, si tant est que nous le découvrions un jour, nous le connaissons non pas par un contact expérientiel ou observationnel direct, mais par la théorie scientifique finale, qui, par le biais des termes théoriques, ce qu'on appelle, je ne vais pas rentrer là-dedans, des Ramsey phrases, des énoncés Ramsey, qu'elle utilise doit, ou du moins devrait, en fournir l'inventaire exhaustif. Or, outre les réserves qu'elle suscite sur la possibilité d'une telle duplication ou d'un tel échange par les propriétés de leurs pouvoirs causaux, et sur le réalisme hume-ien peu robuste des propriétés qu'elle implique, vous voyez qu'une position comme celle de Lewis a donc aussi pour conséquence négative sur le double plan métaphysique et épistémologique de semer de sérieux doutes sur la possibilité qui serait la nôtre d'avoir un accès cognitif à de telles qualités pures ou propriétés catégoriques intrinsèques du monde avec lesquelles, rappelons-le, chez Lewis, nous n'avons pas de contact causal direct, puisque nous ne disposons que des termes théoriques, précisément, pour y faire référence. Il est donc, a priori assez douteux que l'humilité lewisienne, donc je le répète, qui est admise, n'est-ce pas, par son auteur, mais qu'il ne trouve pas problématique, quand bien même elle se distinguerait, ce qui reste encore justement à essayer de voir, de l'humilité kantienne, soit une position vraiment désirable pour qui veut pouvoir apporter, comme c'est notre objectif, une solution convaincante au défi de l'intégration et éviter en particulier toute solution qui pourrait nous rapprocher de l'idéalisme. Bref, je serais tenté de dire que l'austérité nominaliste serait épatante si elle était tant soit peu payée de retour. Mais il semble bien décidément, non seulement qu'elle soit contraire à nos intuitions communes, mais qu'elle ne nous permette même pas d'éviter l'obscurité et le scepticisme généralisé. Alors, qui paie en définitive le prix métaphysique le plus exorbitant? Mais il y a un quatrième mérite de l'approche dispositionnaliste, et il nous tient aussi à cœur. C'est, semble-t-il, d'être plus en accord, nous l'avons vu, avec ce que la science semble nous dire aujourd'hui du monde. Puisque nous sommes nombreux à penser, sans doute, le monde, toujours sur le mode des catégories cartésiennes ou humiennes, c'est-à-dire que quand nous pensons aux objets, comme je l'ai dit, nous avons bien tendance à d'abord penser à des configurations spatiales, à des choses dures, massives, dotées d'une forme, résistant à la pénétration ou au déplacement, donc à des choses ou à des propriétés que, sans hésiter, nous tendrions à plutôt caractériser comme des bases catégoriques. Et pourtant, vous vous souvenez aussi, comme je l'ai dit, c'est un point qu'avait déjà noté Leibniz, si vous prenez l'étendue ne peut être comprise qu'en relation avec telle autre propriété qui soit à même de définir les limites de la chose, la dureté va de pair avec la résistance, la masse n'est connaissable que par ses effets dynamiques, et qui ne se souvient aussi des paradoxes auxquels conduisait la conception dite passiviste concernant, par exemple, l'origine du mouvement et du changement, ou encore des conséquences fâcheuses d'une théorie de la causalité, s'agissant par exemple des problèmes de ce qu'on a appelé les causes par absence. Intuitivement, semble donc plus convaincant le paradigme de l'activisme ou du dynamisme, de ce que Rom Hare a appelé le paradigme de Van Helmont, selon lequel les objets sont intrinsèquement actifs ou ont des pouvoirs intrinsèques. Il permet en effet de comprendre plus naturellement, en somme, comment l'action est provoquée par des propriétés intrinsèquement efficaces, les pouvoirs de l'objet. Et qui plus est, une fois n'est pas coutume, la physique semble donner raison à nos intuitions. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'un de ceux qui défendent le mieux le dispositionnalisme, Brian Ellis, en tire un argument pour développer ce qu'il appelle un dispositionnalisme essentialiste scientifique. Bon. Il fait remarquer que le monde que les sciences de la nature se donnent aujourd'hui pour but de décrire est un monde, vous vous en souvenez, hiérarchiquement structuré en espèces naturelles, d'objets, mais aussi d'événements et de processus, recouvrant un domaine bien plus large que celui traditionnel des objets ou des substances. Incidemment, je relisais ces jours-ci, parce qu'il ne faut jamais oublier de relire les bons auteurs français, quand vous relisez des textes de Bachelard ou de Gilbert Simondon, notamment l'individu et sa genèse physico-biologique, il y a chez Simondon toute une série de thèmes que j'ai eu plaisir à retrouver et qui, dont certains, enfin, bon, qui m'avaient marqué, mais je ne me souvenais plus à quel point ils étaient encore absolument réutilisables dans les réflexions que nous faisons aujourd'hui sur ces questions. Donc je ne saurais trop, même si le livre est difficile à trouver, je ne saurais trop vous recommander de relire ce bon auteur. Bon, et c'était effectivement, Simondon avait dit des choses extrêmement intéressantes sur le primat de la relation, n'est-ce pas, sur le transindividuel, etc., et sur la manière dont il concevait le principe d'individuation, précisément. Bon, donc, si j'ai le temps un jour, j'en parlerai un peu plus en détail, mais en tout cas, je pense que c'est une lecture que cela vaut toujours la peine de faire, n'est-ce pas ? Bien, même si évidemment il y a toujours chez Simondon aussi un petit peu de lamarckisme, bon, mais il y a des analyses d'une rigueur tout à fait remarquable, donc il ne faut pas hésiter à se précipiter dans ces textes. Alors, quant aux propriétés les plus fondamentales, il ne s'agit plus de qualités premières passives, comme celles que mettait en lumière le mécanisme classique, mais de capacités, propensions ou pouvoirs causaux, pouvoir d'agir et d'interagir, de propriétés donc qui sont par nature ou essentiellement dispositionnelles, en ce qu'elles mettent en œuvre des dispositions à agir et à réagir de différentes manières, avons-nous vu, selon les circonstances. À ce sujet, je crois que Jonathan Law, qui est resté un farouche substantialiste, bon, pour sa part, identifie assez bien, me semble-t-il, l'une des raisons pour lesquelles certains philosophes, pourtant conscients des difficultés inhérentes au dispositionnalisme ou à la métaphysique des pouvoirs, préfèrent dire qu'il n'y a pas de propriété purement catégorique ou qualitative, mais seulement des pouvoirs, ou sont à tout le moins, c'est le cas par exemple de l'interprétation que propose Jonathan Hale, de ces pouvoirs comme qualitatifs ou comme ayant un aspect qualitatif. Cette raison tient au fait que la notion même de propriété, je signale aussi au passage que le très, très important ouvrage de Hale, mais je crois que je vous l'ai mis dans la bibliographie, a été traduit en français d'un point de vue ontologique aux éditions d'Ithac l'année dernière. Hein. Donc c'est aussi un livre que vous pouvez lire dans notre belle langue. Bien. Donc, Law explique très bien la raison pour laquelle, si vous voulez, on peut continuer à être tenté par le dispositionnalisme. Cette raison tient au fait, dit-il, que la notion même de propriété, qui est un non-pouvoir, en quelque sorte, n'est-ce pas, ou qui serait un non-pouvoir, appliqué à un objet concret, en toute rigueur, n'a aucun sens. Cela supposerait en effet, dit Law, qu'une telle propriété, vous voyez, soit parfaitement inerte causalement. Or, on ne peut pas penser de façon cohérente que même une propriété de forme comme la sphéricité soit un non-pouvoir. Car cela impliquerait que la sphéricité n'induit aucune différence sur le comportement causal d'un objet sphérique. Et donc, vous voyez que si tel était le cas, eh bien, on ne pourrait même pas dire si oui ou non l'objet en question est sphérique. Parce que la perception des propriétés d'un objet requiert telle ou telle sorte d'interaction causale, une fois encore, entre le sujet percevant et l'objet. D'où l'idée qu'une partie de ce que c'est d'être un objet sphérique, ou si vous voulez, une partie de l'essence de la sphéricité, bien, consiste bien dans les pouvoirs qu'a un objet en vertu de sa sphéricité. Par exemple, le pouvoir de rouler sur un plan incliné ou de projeter une ombre circulaire lorsqu'il l'objet est illuminé sous le bon angle, ou de paraître sphérique, tout simplement, à une personne dotée d'une vision normale. Et vous voyez, je crois que, comme nous l'avons dit la semaine dernière, c'est pour cette raison que quelqu'un comme Ellis tend à penser que les dispositions, au fond, ne dépendent pas ontologiquement d'autres propriétés. Au contraire, et j'avais souligné la tonalité aristotélicienne et leibnizienne, les choses fondamentales du monde, finalement, sont essentiellement actives et dynamiques. Ce ne sont pas juste des objets passifs qui obéiraient aveuglément au commandement de Dieu, comme le croyaient la plupart des philosophes du XVIIe et du XVIIIe siècle, un monde de choses uniquement dotées des attributs d'étendue et d'impénétrabilité, sur le modèle des univers cartésiens ou lockéens, nous avons plutôt affaire à un monde dans lequel les choses ont leur propre dynamique interne, une dynamique essentielle à leur nature et déterminante pour leur comportement. Mais si toutes les choses sont essentiellement active et réactive, cela signifie qu'au niveau le plus fondamental, ce qu'elles sont intrinsèquement disposées à faire est ce qui fait d'elles le genre de choses qu'elles sont. Et donc, leur identité comme membre de telle ou telle espèce dépend de la manière dont elles sont ainsi disposées à agir. Et c'est pourquoi, vous vous souvenez, Ellis considérait par exemple qu'un électron, ce n'est pas quelque chose dont l'identification pourrait se faire indépendamment de ses pouvoirs causaux. Un électron, tout au contraire, ce qu'il est disposé à faire, la manière dont il est disposé à interagir avec des champs ou d'autres particules, c'est ce qui fait de lui le genre de chose qu'il est. Une particule, en d'autres termes, est un électron si et seulement si elle est disposée à se comporter comme telle. Du même coup, ses propriétés dispositionnelles relèvent bien, semble-t-il littéralement, de son essence. Vous voyez pourquoi je disais que ce n'est pas seulement de dire que toutes les propriétés étaient dispositionnelles, il s'agissait d'induire même l'idée qu'elles étaient essentiellement dispositionnelles. Vous voyez, c'est-à-dire faisant véritablement partie de la définition même de la chose. Bien. Bon, ça voudrait donc dire que les caractéristiques définitionnelles, réelles, des espèces de choses les plus fondamentales que nous connaissons, les protons, électrons, résident toutes, apparemment, dans ces lois d'interaction. La caractéristique définitionnelle du pronom, c'est son rôle causal et rien d'autre. Donc, la science confirmerait cette omniprésence des propriétés dispositionnelles. Comme je l'ai dit, Bon, pour reprendre la formule de Shoemaker, par exemple, toute propriété est un pouvoir et n'est rien qu'un pouvoir. Vous voyez que nous sommes bien loin de l'univers néo-lumien atomiste dans lequel la causalité se définit en termes de régularité, de conjonction constante, comme cette vaste mosaïque d'occurrences locales dont parle Lewis, de ces faits particuliers dotés de propriétés intrinsèques et catégoriques. Comme dit Lewis, rien qu'une petite chose, puis une autre, et ainsi de suite. All there is to the world is a vast mosaic of local matters of particular fact, just one little thing and then another. Nous partons de ce que nous livre la géométrie, un système de points qui ont entre eux des relations externes de distance spatio-temporelle, des points de l'espace-temps lui-même peut-être, ou de points de matière, éther ou champ, ou des points des deux à la fois. Et ces points se trouvent localement. En ces points, pardon, se trouvent localement des qualités pures, lesquelles pour Lewis s'entendent du reste comme des classes nominalistes de termes. Et au fond, et aussi proche, semble-t-il, que l'on soit du point de vue du sens commun, hein, surtout ce qui est quand même un peu surprenant chez quelqu'un qui s'estime ou se qualifie volontiers de « commonsensical fellow », on considère comme un fait primitif que telle est la manière dont les choses se présentent, sans d'ailleurs, vous voyez, juger nécessaire de le justifier ou de l'expliquer. On dit que ce sont là des propriétés intrinsèques parfaitement naturelles et qui constituent une base minimale pour caractériser le monde complètement. Donc, ces propriétés censément naturelles à la Lewis n'ont besoin, si on le suit bien, de rien d'autre ou de plus pour être instanciées que d'un point. Assurément, comme l'avait déjà noté Jean Nicot, du moins dans une géométrie à prétention physique, disait-il, et non abstraite, il n'est peut-être rien de plus complexe qu'un point. Bon. Mais il n'est pas sûr que Lewis ait une telle géométrie physique en tête. La condition suffisante et nécessaire, en tout cas pour être une propriété fondamentale, intrinsèque ou catégorique pour lui, c'est d'être instancié par un point. C'est tout, pourrait-on dire. L'essence d'une propriété est ici, vous comprenez bien, parfaitement indépendante de la capacité qui est la sienne à entrer dans des relations causales et à figurer dans des lois. Le monde, au niveau fondamental, eh bien, se ramène à un arrangement de qualité sur lequel tout le reste survient. La distribution entière des propriétés physiques fondamentales est ce qui constitue, en d'autres termes, ce qu'on pourrait appeler le ciment des choses dans tout l'espace-temps. C'est ce qui est la colle lewisienne, drôle de colle, pour organiser la distribution des propriétés. Elle se ramène, vous le voyez, en vertu d'un principe de combinaison libre à un réseau de relations spatio-temporelles entre des points, et c'est cette combinatoire parfaitement contingente au niveau général, mais aussi particulier, de qualité pure, de propriétés intrinsèques et catégoriques, qui sert et suffit, selon Lewis, à unifier cette mosaïque pour en faire un monde possible. Il en est ainsi, quelle que soit la distribution des propriétés physiques individuelles instanciées en un point ou une région de l'espace-temps, laquelle n'impose aucune restriction aux propriétés physiques instanciées ailleurs. Vous comprendrez que pour ma part, je ne puis m'empêcher d'avoir quelques réserves sur la qualité de la colle. Comment fait-elle tenir ensemble tous les morceaux du puzzle? Et qu'est-ce qui le fait exactement tenir? Je crois qu'on peut déjà mesurer la fragilité justement de ce ciment à la lumière de la lecture critique que proposent précisément de faire certains dispositionnalistes, notamment Ellis, mais aussi Alexandre Bird dans son livre « Nature's Metaphysics », de la conception des lois qui découle d'une telle vision néo-humienne de la nature. Car l'approche dispositionnaliste semble en effet avoir une autre vertu épistémique de taille, celle de rendre compte de manière une fois encore bien plus intelligible que dans un modèle humien ou léwissien, mais pas seulement, des lois de la nature. Mais comme, justement, c'est une question extrêmement complexe, je réserverai l'examen de cette question pour la prochaine séance, car elle nous prendra au moins une bonne séance. Bien. Donc, vous voyez que les mérites du dispositionnalisme ne sont apparemment quand même pas minces, et ils sont même tellement importants, assurément, qu'on peut se demander pourquoi il se fait que tout le monde ne se soit pas rendu à cette position. Je ne vous cache pas que pendant un temps, j'ai beaucoup eu de mal à résister moi-même à la tentation et qu'il m'a fallu un certain temps pour quand même réussir à me départir de tout ce que cette position avait d'attirant. Bien. Bon, ce qui m'a fait un petit peu déjà, réagir, c'est quand je me suis aperçue qu'un réaliste robuste comme David Armstrong, tout catégoricaliste qu'il soit, n'est-ce pas, il reste quand même réaliste, ce qui me paraît être une attitude de, a priori de santé mentale. Bon. Et à considérer que précisément, il n'était pas possible de soutenir jusqu'au bout, n'est-ce pas, une attitude de ce genre. Donc, je crois qu'il faut aussi raison garder, reprendre nos esprits et essayer de voir, en les approfondissant, les objections qu'on peut faire à l'endroit du dispositionnalisme. Et c'est ce que nous allons faire. En distinguant notamment les objections susceptibles de s'adresser à toutes les formes de dispositionnalisme, de celles qui, en fonction des versions ou des degrés d'engagement qu'en proposent leurs défenseurs, n'auront peut-être pas la même teneur, ni peut-être non plus la même portée. Je pense que ce faisant, cela va nous permettre aussi en creux de commencer un peu à mieux dessiner les contours de ce que pourrait vouloir dire un réalisme des dispositions. En d'autres termes, de voir ce qui peut être éventuellement préservé, n'est-ce pas, des mérites incontestables du dispositionnalisme, du moins à mon sens. Hein, donc, de voir donc peut-être jusqu'où la thèse selon laquelle toutes les propriétés, ou presque, y compris les plus fondamentales, sont dispositionnelles, tout en remédiant à certains de ces défauts, par ailleurs, assez peu contestables. Et c'est ce à quoi je voudrais donc maintenant un petit peu plus m'acheminer. Le premier groupe d'objections, donc nous sommes au paragraphe 2 sur la feuille d'accompagnement, a trait, vous vous en souvenez, aux menaces idéalistes induites par le monisme dispositionnel. Pour bien comprendre où nous en sommes, je vous rappelle l'éventail possible des positions. Nous l'avons vu, il n'est pas besoin d'être un moniste dispositionnel, donc un pan-dispositionnaliste, ni davantage un moniste catégorique pour être un réaliste et pour reconnaître l'existence de propriétés réelles qui ne se réduisent pas à l'ombre portée par des prédicats. Mais il n'est pas non plus nécessaire d'être un moniste dispositionnel pour être d'emblée écarté du dispositionnalisme. C'est un point que a notamment souligné George Molnar dans son livre Powers, qui fait remarquer que, j'y ai déjà fait allusion, on peut soutenir un dualisme des propriétés ou une position mixte, et ce de plusieurs manières. Soit dualisme fort en admettant et des propriétés catégoriques, donc les propriétés spatio-temporelles, les relations, et des propriétés dispositionnelles réelles. C'est du reste, finalement, la position du dispositionnaliste Molnar lui-même. Soit en soutenant que chaque propriété a deux faces ou deux aspects, l'une catégorique, l'autre dispositionnelle. C'est la position qui est celle, par exemple, de Charlie Martin ou de Hale. Bien. Face à ces positions, vous voyez que celle du moniste dispositionnel est donc plutôt radicale, puisqu'il est prêt à admettre avec le réaliste catégorique, l'existence nécessaire d'une corrélation entre la disposition et sa base, mais il nie que cette dernière soit non dispositionnelle. Donc il n'y a plus de distinction, dès lors, entre les propriétés dispositionnelles et celles qui seraient censées ne pas l'être. Corrélativement, les prédicats habituellement considérés comme non dispositionnels ne le sont pas en fait. Or, j'ai eu l'occasion de vous le dire rapidement lors de la première séance, vous voyez où nous conduit tout de suite une position quand même de cette nature si on la suit jusqu'au bout. Si toutes les propriétés, du moins toutes les propriétés rares, rappelons que ne sont pas concernées les propriétés abondantes, comme par exemple gris et pesant 10 kg, hein, selon la distinction qu'on fait entre les propriétés rares et les propriétés abondantes. Les propriétés abondantes, ce sont celles qui ainsi peuvent, vous voyez, recevoir plusieurs types de caractéristiques. Bien. Pour le moment, nous nous contentons des propriétés rares. Eh bien, si toutes les propriétés rares sont dispositionnelles, en un mot, si règne absolument partout des propriétés dispositionnelles, de bas en haut, de haut en bas, on court le risque, vous vous en souvenez, d'un monde berkeleyen de propriétés déréalisées, dans lequel il n'y a plus de distinction entre qualité première et seconde, un monde circulaire, dans lequel, comme le notait Russell, toutes les choses finissent par déteindre les unes sur les autres, comme en témoigne l'analyse contrefactuelle en termes de monde possible, dont le résultat, comme l'a montré Simon Blackburn, est affligeant. Si on suppose, dit Blackburn, qu'un monde est entièrement décrit par ce qui est vrai dans les mondes voisins, alors toutes ces vérités à leur tour s'évanouissent dans des vérités relatives à d'autres mondes encore plus voisins. En conséquence, il n'y a plus de vérité nulle part. Nous avons donc affaire à un monde incohérent. Le texte de Blackburn que j'évoque, c'est Filling the Gap, qui a été repris dans ses essais sur le quasi-réalisme, que j'ai dû vous mettre dans la bibliographie aussi, me semble-t-il. Donc vous voyez que nous aurions affaire à un monde incohérent, ne semble plus applicable le concept de vérité. Et nous avons aussi affaire à un monde fantomatique, puisque c'est un monde dans lequel l'objet contient toujours en lui, de manière essentielle, comme le dit Armstrong, une référence à une manifestation qui ne s'est pas produite. Il pointe en direction de quelque chose qui n'existe pas. Et Armstrong objecte à Ellis, par exemple, que de tels pouvoirs causaux intrinsèques sont, dit-il, des propriétés meinongiennes et, à ce titre, contestables. En principe, dit-il, il pourrait y avoir des pouvoirs causaux qui se trouveraient n'avoir jamais l'occasion de s'exercer. Or, si de telles propriétés n'ont pas de base catégorique comme le croit Ellis, de tels pouvoirs ne peuvent se définir que par les rapports qu'ils ont avec des objets non existants, c'est-à-dire avec le genre de circonstances qui les déclencheraient et le genre de manifestations qui en découleraient. Vous le savez, c'est un point que j'avais noté, l'intentionnalité que Brentano tenait pour une marque distinctive du mental, dirigée vers les objets ou les états de choses inexistants, n'est-ce pas, a été considérée justement pour certains une marque non pas tant du mental que du dispositionnel. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on rapproche carrément l'intentionnalité de la dispositionnalité. Bon, autrement dit, une menace pèse donc en permanence sur le pan-dispositionnalisme. Si toutes les propriétés rares ne sont que des pouvoirs, toute distinction sérieuse se perd entre les pouvoirs et leurs manifestations. On peine alors à se figurer un événement réel, ou pour le dire en termes scolastiques, le monde ne passe jamais de la puissance à l'acte, rien n'arrive jamais, selon le slogan fameux du « bagage toujours prêt, voyage jamais fait », c'est ainsi que je traduis « always packing, never traveling ». Bref, si toutes les propriétés rares ne sont que des pouvoirs, la relation entre les pouvoirs et leurs manifestations seulement potentielles, voire qui ne se produit jamais, n'est-ce pas, devient quelque chose de totalement mystérieux. Puisque nous sommes confrontés en quelque sorte à un monde qui non seulement ne passe jamais de la puissance à l'acte, mais où rien jamais n'arrive, hein, selon l'objection classique de l'actualisme mégarique. Or, il se peut sans doute, c'est un point que note fort innocemment Armstrong, bon, qu'il n'y ait là aucune contradiction, mais c'est quand même là, tout de même, un monde assez incroyable. Bon, irréel, incohérent, incroyable. Décidément, il ne fait pas bon vivre dans l'univers du dispositionnaliste. Et sans doute est-ce aussi d'ailleurs la raison pour laquelle, y compris chez ses partisans les plus convaincus, nous repérons souvent, quand nous lisons les textes, certaines stratégies de contournement que je m'étais amusée une fois à observer dans certains textes, dans certaines réponses notamment d'Alexandre Bird à Mellor. Et je me souviens, il y avait eu une conférence à Bristol sur cette question, causalité et disposition. Et j'avais fait observer à Bird que sa position était quand même, tout dispositionnaliste qu'il était, par moments, il essayait quand même de rattraper les choses en faisant des pas de côté qui montraient tout de même qu'il percevait tout à fait les difficultés où la position pouvait mener si elle allait jusqu'au bout, n'est-ce pas ? Bon. Il aura l'occasion de présenter, Bird viendra en mai, dans le cadre d'un colloque qui se tiendra pas loin d'ici. Je pense qu'il sera intéressant de voir s'il a un petit peu modifié ou pas, justement, sa position là-dessus. En tout cas, celle qui est la sienne dans Nature's Metaphysics, c'est toujours une position dispositionnaliste, quand même très, très, très ferme. Bien. Mais je crois qu'il a mis, malgré tout, aussi de l'eau dans son vin. Bon. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, avant de nous demander si cet univers est incroyable et ne justifie pas tout de même, pour cette excellente raison d'être quand même un peu amendé, Je pense qu'il faut même peut-être commencer tout simplement à se demander s'il n'est pas purement et simplement, en effet, contradictoire. Alors, je crois que là, une première critique que nous pouvons faire est évidemment une critique qui porterait sur le caractère, pourrait-on dire, vaporeux des dispositions. Si on admet, en effet, qu'un pouvoir implique une relation à une autre propriété qui peut elle-même ne pas être instanciée, alors il semble que l'on fasse référence à un état de choses simplement possible, et peut-être donc insuffisamment solide pour soutenir ou compléter la réalité de la première. C'est une remarque que fait dans son livre Bird, page 99. Peut-on ainsi accepter que quelque chose de réel dépende, autrement dit, vous voyez, de quelque chose de non réel? En vérité, on notera tout d'abord que considérer, selon la formule utilisée par Robinson, qui a beaucoup travaillé, Howard Robinson, sur la question justement de l'idéalisme, considérer un monde de pouvoir comme trop peu substantiel pour être crédible suppose une conception de la réalité qui, malgré tout, refuse tout statut autre que mineur au possible. Et c'est le cas que l'on souscrive au réalisme modal et que l'on admette l'existence de possibilités non actuelles uniquement dans d'autres mondes que le monde actuel, ou que l'on adopte une forme aiguë ou mégarique d'actualisme, et que l'on refuse purement et simplement un tel concept en allant jusqu'à nier, comme le notait Aristote, qu'une chose puisse agir autrement qu'en agissant, par exemple qu'un maçon ait le pouvoir de construire s'il n'est pas actuellement en train de le faire. Mais au fond, n'est-ce pas là restreindre aussi considérablement le champ du possible dans le réel que de considérer que la relation entre le pouvoir et sa manifestation aurait alors trop de potentialité et pas assez d'actualité ou de réalité? Comment refuser d'admettre la réalité, y compris sur le plan causal, de certaines possibilités non réalisées? Comme je l'ai dit, n'est-ce pas parce que la possibilité que ce vase se brise est bien réelle, du fait de sa fragilité, que cela me conduit à prendre des précautions pour le manipuler? Supposons qu'en le refroidissant, je fragilise un objet qui n'était pas auparavant fragile, puis que je le réchauffe à nouveau et qu'il ne le soit plus, même si la désintégration de l'objet ne s'est pas manifestée durant sa période de fragilité, cela n'a-t-il vraiment aucun sens de considérer que le refroidissement a bien causé l'existence de cette désintégration qui ne s'est pas manifestée? Pour mesurer de quelle manière une possibilité non réalisée peut entrer dans des relations causales en étant une cause, prenons un exemple contrefactuel de causalité. Si la possibilité de se briser pour le vase n'avait pas existé, c'est-à-dire si le bris du vase avait été impossible, il n'y aurait pas eu de surprise, de bruit, de doigts coupés, etc. C'est l'exemple que prend Bird, page 114, dans son livre. Alors, ce n'est pas dire qu'il ne faille pas distinguer, toutefois, plusieurs manières dont on peut concevoir ou dont s'effectue même de fait la relation entre la disposition et sa manifestation. J'en distinguerai au moins trois. Premièrement, sans doute est-il difficile de parler en toute rigueur de relation de causalité entre un pouvoir et sa manifestation, autrement que dans la situation où toutes les conditions de stimulus sont présentes. Autrement dit, si quelque chose est un pouvoir, on attend bien de lui qu'il soit un pouvoir de faire quelque chose. Et si les conditions de stimulus adéquates sont présentes, le pouvoir peut être dit au moins partiellement causer sa manifestation en un sens non problématique. Deuxièmement, en revanche, les choses sont déjà moins évidentes et on hésite plus à parler de relation réelle si nous entendons cette relation, comme on l'a vu, au sens de la direction ou de l'intentionnalité, car en ce cas, la manifestation, le second relatum, en quelque sorte, n'est pas actuelle. Et peut-être a-t-on raison, en effet, de ne pas trop s'apesantir, du coup, sur cette relation, comme le souligne Alexandre Bird. Mais comment, en même temps, et c'est la troisième manière de considérer les choses, pourrait-on ne pas juger digne d'intérêt un troisième type donc, de relation qui est banalement le concept classique depuis Aristote d'actualisation. Il s'agit simplement de montrer ici que le pouvoir cause la transition de sa manifestation non actuelle à sa manifestation actuelle. Si on retient ce sens, alors, comme le note Anna Marmodoro dans l'article qu'elle a publié dans The Metaphysics of Power, The Grounding and the Manifestations, ainsi du reste que toute une série d'articles tout à fait intéressants dans ce volume. Anna Marmodoro, qui est une aristotélicienne de choc, et qui reprend justement à partir de l'aristotélisme un certain nombre des questions, bon, de manière plus ou moins justifiée. Là n'est pas encore pour le moment la question, nous verrons plus tard. Mais en tout cas, elle a tout à fait raison de dire que, par exemple, si on retient le sens aristotélicien, ce qu'il s'agit simplement de montrer en ce cas, n'est-ce pas, c'est que le pouvoir cause la transition de sa manifestation non actuelle à sa manifestation actuelle. Et donc, que de ce point de vue, on peut parfaitement admettre que des pouvoirs puissent reposer sur d'autres pouvoirs, ce qui est, nous allons voir, une des difficultés justement que vous évoquiez, je crois, la semaine dernière, sans avoir besoin de leur chercher un fondement dans d'autres propriétés catégoriques. En effet, les réalistes catégoriques invoquent en effet contre les dispositionnalistes ce qu'on appelle l'argument de l'existence continuée, n'est-ce pas, pour justifier le besoin pour les dispositions de base catégorique. Pour eux, les dispositions ne peuvent avoir d'existence entre leurs manifestations que si elles sont fondées dans des propriétés catégoriques. L'objection d'un régressus, d'une régression des pouvoirs que l'on pourrait faire, donc vous voyez, au dispositionnisme, puisqu'il supposerait que le pouvoir repose lui-même sur un pouvoir, ad infinitum, voyez, il faut observer que cette objection ne vaut que si l'on considère que la supposée directionnalité ou intentionnalité suspecte du pouvoir est une propriété de celui-ci distincte et donc différente de l'essence. Mais ce que rappelle Anna Marmodoro, c'est que, en réalité, nous ne sommes pas dans le cas aristotélicien en présence de deux entités. Il n'y en a qu'une seule. Pour éviter toute régression, comme Aristote l'avait montré, il faut et il suffit qu'une entité soit en quelque sorte son essence, en d'autres termes, qu'elle n'ait pas comme propriété l'instanciation de son type essentiel, mais plutôt qu'elle soit identique à celle-ci. Métaphysique 1032a24. Toute chose et son essence sont une seule et même chose, d'une manière qui n'est pas seulement accidentelle. Bien. Prenons une allumette dont nous disons sans hésiter, au demeurant, qu'elle est inflammable. Si nous la frottons, elle brûle. Ici, pas de problème. Nous comprenons la relation comme causale, puisque sont présentes, vous voyez, les conditions de stimulus, le frottement, et la manifestation brûlée du pouvoir inflammabilité. Mais supposons que nous ne frottions pas l'allumette. Qui songerait à nier le pouvoir de l'allumette d'être inflammable ou, si on veut, d'être dirigé vers, d'être prête à brûler? Vous voyez que le modèle qui semble ici le plus explicatif, c'est bien le modèle aristotélicien d'actualisation qui rend compte de la relation entre la manifestation probable de l'inflammabilité et la combustion actuelle de l'allumette, qu'on analyse cette relation au sens d'un processus liant l'inflammation à la combustion, ou l'inflammabilité comme une propriété qu'instancie ou qu'est susceptible d'instancier l'allumette à tel ou tel moment. Vous voyez ? Bon. Toutefois, même si nous accordons le principe d'une telle relation et la rendons à tout le moins non contradictoire ou cohérente, la question reste entière, contrairement à ce que soutient le monisme dispositionnel, de savoir quelle est la base métaphysique, ou dirions-nous en termes scolastiques, le fundamentum de la distinction que nous opérons entre le pouvoir et sa manifestation. Pourquoi ? Eh bien parce que, si du moins on est un réaliste sérieux, on peut penser qu'il y a bien une distinction ontologique, n'est-ce pas, entre un pouvoir et sa manifestation. Mais de quel ordre au juste ? Nous faut-il, en quelque sorte, distinguer ici deux entités, l'une qui serait intrinsèquement un pouvoir et l'autre qui serait intrinsèquement la manifestation d'un certain pouvoir. Auquel cas, la relation, vous le voyez, purement accidentelle, serait constituée par les propriétés intrinsèques de ces relata ou, comme on dit aujourd'hui, surviendrait sur elle, ou bien peut-on envisager, ce qui on l'accordera et cette fois peu aristotélicien, que ce qui permet la relation entre deux entités est ce qui détermine le caractère des relata comme pouvoir et comme manifestation de ce pouvoir. Auquel cas, les critères d'identité des pouvoirs comme de leur manifestation seraient donnés, vous le voyez, non pas par leurs propriétés intrinsèques, mais de manière purement relationnelle. Je reviendrai plus tard sur cette question, car c'est sans doute dans cette direction que j'irai moi-même, dans la deuxième. Je voulais simplement vous faire sentir dès à présent qu'on avait finalement un éventail de choix possibles, n'est-ce pas ? Sauf qu'il faut trouver les arguments qui permettent plutôt d'aller dans un sens que dans un autre, n'est-ce pas ? Donc, mais bon, je pense que nous devrons étendre autrement dit, la perspective du relationnisme au-delà de la question même des propriétés intrinsèques. En tout cas, vous voyez bien que le moniste dispositionnel ou le pan-dispositionnaliste règle le problème en disant que, d'une certaine façon, il est d'emblée résolu. Je crois que c'est sûrement évacuer un peu vite une difficulté qui se présente du reste à tout dispositionnaliste, fût-il plus disposé à pencher vers des intuitions dualistes et que ne satisfait pas davantage une solution qui viserait simplement, au fond, à ramener le problème de la base à un problème de distinction aspectuelle, à la Martine ou à la Hale, voire purement sémantique ou conceptuelle, entre le pouvoir et sa manifestation. Mais, si vous le voulez bien, approfondissons un peu les choses. Et revenons sur cette question d'une possible régression vicieuse ad infinitum. Si toutes les propriétés sont des pouvoirs, alors leurs manifestations en sont aussi. Et l'on assiste donc, c'est quand même là un problème qui n'est pas mince, à un jeu incessant de chaises musicales. « A shifting around of properties », disent les dispositionnalistes. Bon. Rien ne se produit puisqu'il n'y a plus de transition de la puissance à l'acte. Conséquence fâcheuse de cette régression infinie des pouvoirs, il devient impossible d'en fixer les conditions d'identité. C'est une objection très forte, je crois, ici, de Jonathan Law. À plusieurs reprises, il revient sur cette objection et elle n'est pas, en effet, une objection qu'il est facile d'évacuer d'un revers de main. Les objets n'ont de pouvoir que si l'on peut connaître ou reconnaître quand des changements se produisent, ce qu'ils ont en l'occurrence le pouvoir de produire. Pour reconnaître que des changements se sont produits, il faut donc reconnaître des propriétés, n'est-ce pas ? Mais si ces propriétés ne sont rien que les potentialités elles-mêmes, chargées de contribuer aux pouvoirs causaux, eh bien nous avons à l'évidence une régression à l'infini vicieuse. Donc, à supposer que l'idée ne soit pas incohérente, serait-elle vraie que nous ne pourrions jamais connaître la moindre propriété ? Or, le modèle n'était-il pas censé précisément éviter cette conséquence jugée inhérente au modèle catégoricaliste ? Vous vous souvenez ? Bon. Alors, je crois qu'évidemment, il y a deux manières possibles de répondre à la difficulté. Je crois en effet que la critique repose sur deux présupposés épistémiques dont Alexander Bird, avec la sagacité qui le caractérise, évidemment, n'a pas pu manquer d'observer qu'elle n'allait pas de soi. D'abord, que les pouvoirs étant par nature inobservables, ne peuvent avoir d'effet causal. Même un pouvoir qui n'est pas observable, comme nous venons de le dire, peut être réel, sans quoi nous ne protégerions pas les prises électriques pour empêcher les enfants d'y mettre les doigts. Ensuite, se loge ici une conception erronée de la connaissance elle-même, comprise comme une chaîne constituée d'étapes auxquelles nous devrions, pour chacune d'entre elles, avoir un accès épistémique. Mais savoir n'est pas savoir que l'on sait. Et les conditions de fiabilité, de sûreté de la connaissance ou de la croyance vraie justifiée qu'on est certes censé attendre d'une chaîne épistémique sont d'une toute autre nature que ce que prétend décrire un tel processus. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'en parler. Pour ceux d'entre vous qui m'ont fait l'amitié de suivre le cours de l'an passé, je pense que ceci éveillera quelque chose, n'est-ce pas ? C'est évident que si on admet un processus d'enquête sur un modèle un petit peu différent de celui-là, de celui qui est présupposé, on n'est pas du tout obligé de tomber à ce moment-là dans la difficulté qui est reprochée aux dispositionnalistes. Si l'observabilité n'est pas un gage de réalité, et s'il n'est pas nécessaire pour être dans un état de connaissance, de savoir qu'on l'est, point aussi que souligne en permanence Timothy Williamson, c'est pas dans son livre sur la connaissance, alors l'accusation de régression perd beaucoup de sa force. Vous voyez ? Bon. Alors, plus sérieuse semble être quand même l'objection selon laquelle l'approche dispositionnaliste ne fournirait pas de bons critères d'individuation des pouvoirs. Le problème, en effet, comme l'écrit Lowe, semble être, je le cite, qu'aucune propriété ne peut avoir son identité fixée parce que chaque propriété doit son identité à une autre, qui à son tour la doit à une autre, et ainsi de suite, d'une manière qui, de façon très plausible, engendre soit une régression à l'infini vicieuse, soit un cercle vicieux. Howard Robinson a une objection du même type. Voici ce qu'il dit. Tout objet réel doit posséder une nature déterminée. C'est le premier point. Deuxième point, la nature d'une puissance est donnée par ses manifestations. Elle dépend de ce que sa manifestation soit déterminée. Mais cela conduit à une régression si la manifestation est toujours un nouveau pouvoir. Une séquence infinie de manifestations constitue de l'indétermination. Partant, si une puissance doit être déterminée, il faut que quelque part dans la chaîne des manifestations, on parvienne à une propriété qui n'en soit pas une. Fin de citation. Alors, on peut toujours répondre à la difficulté en invoquant une distinction que l'on pourrait faire entre deux concepts. D'une part, le concept d'identité de nature, d'autre part, le concept d'identité d'essence. Et on pourrait faire remarquer que si la critique vise en effet l'identité de nature, certes, elle est exacte, mais en un sens, elle est inoffensive. Pourquoi ? Eh bien, parce que la nature contient non seulement de nombreuses propriétés contingentes, mais maintes entités aussi, dont la caractéristique est de présenter des contours vagues. Ce pourrait être une manière de répondre. Mais ce n'est pas de cela, malheureusement, qu'il s'agit quand on fait une objection de ce type. C'est bien l'identité de l'essence, vous voyez, qui est en jeu. Or, celle-ci ne souffre pas d'indétermination. Sauf, comme l'a rappelé dans un texte célèbre en 1974, Gareth Evans, c'est-à-dire sauf à contrevenir aux lois de Leibniz, qu'on peut reformuler ainsi, pas d'entité sans identité. Et l'identité doit être déterminée. L'essence d'une entité, c'est bien d'être ce par quoi une chose est ce qu'elle est. C'est comme le dit Aristote, ce qui fixe l'identité. Et l'identité d'une propriété est déterminée si les propriétés auxquelles la relie son essence ont elles-mêmes une identité déterminée. Or, si les essences dispositionnelles sont relationnelles, n'est-ce pas ? En d'autres termes, si l'essence d'une propriété se définit comme une relation à d'autres propriétés, alors on ne peut pas déterminer son identité, puisqu'on ne sort pas du cercle. Nous retrouvons donc là, malheureusement, la difficulté que j'avais déjà relevée plus haut. L'argument n'a de force que si l'on considère que l'identité des pouvoirs doit être déterminée par ses caractéristiques intrinsèques. Bird, qui défend la thèse selon laquelle toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles, refuse cette prémisse. Et il considère qu'il est tout à fait possible de considérer que cette détermination soit purement relationnel. En d'autres termes, que, vous voyez, l'identité du pouvoir soit fixée par sa relation réelle à d'autres propriétés. Si l'on veut défendre le dispositionnalisme en évitant l'objection grave, naturellement, de l'impossible fixation de l'identité, il n'est donc pas impossible que l'on ait intérêt, c'est ce que j'essaierai de montrer, à s'orienter, une fois encore, vers une analyse de ce genre. En revanche, vous voyez, si on admet avec Jonathan Law que l'identité des propriétés dépend nécessairement de ce qu'il est possible d'expliquer dans les termes des déterminations intrinsèques des propriétés, donc de celles qui sont distinctivement et indépendamment des autres les propriétés d'une chose, alors on comprendra que pour nombre d'auteurs, et pas seulement les catégoricalistes, les tentations en effet soient fortes pour contourner les critiques, de s'orienter plutôt vers telle ou telle forme jugée plus intuitive et moins dangereuse de dualisme des propriétés. Peut-on donc finalement échapper à la magie ? Malheureusement, je ne crois pas. Je ne crois pas que aucune des solutions que j'ai essayé de, en essayant de rattraper le dispositionnaliste aux branches, que j'ai essayé, ne peut pas satisfaire un dispositionnaliste et ne peut pas davantage, encore moins, satisfaire un réaliste des dispositions pour des raisons que nous avons déjà vues donc en partie, mais sur lesquelles je reviendrai parce qu'il y en a encore malheureusement d'autres. Bon, si nous récapitulons, peut-être que nous pouvons déjà, par élimination, savoir de quoi nous ne voulons pas. Bon, nous ne voulons pas d'une première solution radicale qui consisterait à admettre d'emblée que le monde est composé de deux types de propriétés, les catégoriques et les dispositionnelles. Et plaçant ces dernières sans autre forme de procès, du côté des propriétés intentionnelles, voire purement et simplement inexistantes. Exit la première solution. La deuxième, nous n'en voulons pas non plus, c'est la deuxième qui est, si on veut, dans le sillage du catégoricalisme armstrongien, et qui supposerait que nous adoptions une voie modale en considérant qu'en définitive, un prédicat dispositionnel ne désigne vraiment une propriété réelle que si, à la différence, par exemple, de la fragilité ou de la rougeur, il a une base catégorique simple, avec laquelle on peut alors identifier la propriété apparemment dispositionnelle. Une troisième option, mais tout aussi peu convaincante dans l'optique réaliste que nous recherchons, serait de considérer que l'objet aurait en quelque sorte deux propriétés, par exemple la fragilité et une de ses bases. Mais, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce qui devient très difficile à comprendre à ce moment-là, c'est la relation de F à ses bases, qu'on peut difficilement comprendre si ce n'est en disant que F est au moins identique à l'une d'elles. Or, quelle sera de F ou de B la cause, par exemple, des effets de la fragilité de A, tel que le fait que A se brise si on le fait tomber. Ne sont guère plus convaincants, quatrième option, les efforts visant, pour expliquer le lien entre F et B, à dire que F est la propriété de second ordre, vous vous souvenez, c'était la position de Pryor notamment, consistant à avoir l'une des propriétés de premier ordre qui sont ses bases. Alors c'est vrai que de ce point de vue, le dispositionnalisme, qui est une cinquième option, est une position plus courageuse, n'est-ce pas ? Puisqu'au fond, elle consiste, pourrait-on dire, à avaler la pilule et à soutenir que la régression n'a rien de fâcheux. Sans doute, toutes les propriétés dispositionnelles doivent-elles avoir une base, voilà qui est acquis, car elles doivent être des propriétés réelles de choses réelles. Or, il est assurément fréquent que les choses ont des dispositions qu'elles ont en raison de leur structure interne, auquel cas, nous pouvons dire que c'est cette structure, en quelque sorte, qui assure la base, le fondamentum des dispositions, soit. Mais pourquoi faudrait-il que cette base soit, en dernière analyse, non dispositionnelle ? Comme l'observe Ellis lui-même, dont je vous signale au passage qu'il finit pourtant maintenant par se rallier à l'option précédente en faveur d'un dualisme des propriétés, comme on le voit dans le texte qu'il a publié justement dans ce dernier ouvrage de 2010, on ne peut exclure, sans faire de pétition de principe, c'est vrai, que la base d'une disposition n'inclut pas ultimement d'autres dispositions. Il se pourrait fort bien, écrit par exemple George Molnar dans Powers, que les dispositions d'un objet dépendent des pouvoirs causaux de ses parties, aussi bien que de l'arrangement de celles-ci. En d'autres termes, et contrairement à ceux qui y voient une régression infinie ou une circularité vicieuse, il se pourrait fort bien qu'un pouvoir ait son fondamentum dans un autre pouvoir, ou à tout le moins que les pouvoirs n'aient pas tous besoin de propriétés catégoriques pour base. Bon, j'ai déjà évoqué quelques arguments métaphysiques aristotéliciens notamment, qui permettent d'asseoir en effet un tel argument. On peut y ajouter aussi, d'ailleurs, des arguments physiques. L'histoire des sciences ne montre-t-elle pas en effet sur ce plan que des erreurs sont possibles ? Nous ne pouvons être sûrs, s'agissant de quelques dispositions prétendument non fondées, dit Stephen Mumford, qu'elles le soient authentiquement ou bien qu'elles soient simplement une disposition ordinaire que l'on juge ultime en raison de l'état incomplet de la physique. Auquel cas, vous voyez, il serait tout à fait légitime d'accorder aux dispositions et pouvoirs le statut d'universaux réels, même s'il s'agit d'universaux non fondés, en quelque sorte. Je crois tout de même que cela nous oblige à des contorsions multiples de surcroît, nous entraîne vers quelque chose qui est peu convaincant, intuitivement, scientifiquement et épistémologiquement, si nous obstinons à considérer que toutes les propriétés sont essentiellement dispositionnelles. N'est-ce pas contraire, malgré tout, aux arguments de fait qui parle en faveur de propriétés non dispositionnelles, et prendre finalement à tort une idée que nous ne pouvons nous empêcher d'avoir pour un caractère de l'objet auquel nous pensons. Insistant beaucoup, comme on l'a vu, sur la source possible de ce rejet d'une propriété qui serait un non-pouvoir, Jonathan Law revient sur cette question et il observe qu'il y a souvent une confusion à l'origine de l'idée selon laquelle il faudrait tenir toutes les propriétés, même les géométriques comme la sphéricité, pour des propriétés dispositionnelles. Sans doute est-ce bien, vous vous souvenez, c'est le texte que je vous ai lu tout à l'heure, justement, les premières remarques qu'il fait sur les raisons pour lesquelles on a du mal à ne pas voir dans quelques propriétés que ce soit un pouvoir, n'est-ce pas, à propos de la sphéricité. Il dit, sans doute est-ce bien en partie en raison de ces pouvoirs qu'un objet sphérique roule sur un plan. Mais tout d'abord, ce n'est vrai qu'en partie. Il ne roulerait pas s'il n'était pas également lourd et rigide, à la différence, par exemple, d'une bulle de savon sphérique. Ensuite, ce n'est pas une raison pour cela de penser que ce qui constitue au moins en partie la sphéricité de l'objet, c'est d'avoir un tel pouvoir, alors qu'il a aussi d'autres propriétés. Notons par exemple que nous attribuons la sphéricité non seulement à des objets matériels, mais à des choses telles que des cavités ou des régions d'espace vide. Or, cela n'a vraiment aucun sens de dire de ce genre de choses que, par exemple, elles rouleraient sur un plan incliné, si elles étaient lourdes et rigides. Car il est métaphysiquement impossible à ce genre de choses d'être lourdes et rigides ou simplement de rouler. Un contrefactuel de ce genre, dit Law, serait donc au mieux parfaitement vide. Bref, nous savons parfaitement bien ce que c'est pour un objet que d'être sphérique. Et cela n'a rien à voir avec de tels pouvoirs, mais plutôt avec le fait qu'il a une surface dont tous les points sont équidistants d'un point donné. La sphéricité comme telle est une propriété purement géométrique, complètement définissable en ces termes. On comprend parfaitement pourquoi, étant donné certaines lois de la mécanique, un objet doté de cette propriété, mais aussi rigide et pesant, a le pouvoir de rouler le long d'un plan incliné, alors que ce n'est pas le cas d'un objet cubique. C'est dans le texte qu'il a publié dans le recueil ici de 2010, page 19. Alors je pense que c'est sans doute, vous voyez, ces difficultés persistantes qui permettent de comprendre pourquoi la plupart des dispositionnalistes finissent par exclure tout de même du domaine des dispositions certaines propriétés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Molnar lui-même soutient par exemple qu'il y a des lois de symétrie fondamentale en physique qui échappent au domaine des dispositions ou des pouvoirs. Quant à Ellis, il finit aussi par estimer que les relations spatio-temporelles et les structures ne peuvent se ramener à des pouvoirs. En se démarquant d'ailleurs, dit-il, de Shoemaker et de Bird. Voici ce qu'il dit. Je ne pense pas que toutes les propriétés, ça c'est 2010, n'est-ce pas ? Donc il a, vous voyez, un peu évolué dans sa position. Je ne pense pas que toutes les propriétés soient des pouvoirs causaux, ni même que toutes les propriétés dispositionnelles soient des pouvoirs causaux. Il y a des propensions telles que les probabilités de désintégration qui sont dispositionnelles, mais elles ne sont pas causales. Et il y a des propriétés catégoriques qui ne sont ni dispositionnelles ni causales. Autrement dit, vous voyez, même Brian Ellis s'oriente désormais davantage vers une forme de dualisme et de quiditisme d'ailleurs, qui le conduit à reconnaître que certaines propriétés catégoriques doivent être présupposées comme base des dispositions. Sans cela, dit-il, il serait impossible, eh bien, tout simplement, de localiser les pouvoirs et de spécifier les lois de leur action. Or, puisque ces propriétés sont de fait instanciées dans le monde actuel, cela semble une bonne raison de considérer que le pandispositionnalisme ne vaut pas, en tout cas, pas pour le monde actuel. À dire vrai, c'est un point sur lequel j'ai insisté tout à l'heure, même si Bird est celui donc, qui va, peut-on dire, le plus loin dans l'aventure moniste, puisqu'il a même essayé notamment, encore récemment, de donner sens à l'idée de structures affranchies des contraintes de l'espace-temps, vous voyez, dans un texte de 2009. Pardon. Et même s'il considère que sur ce point, une bonne partie des arguments invoqués devront être confirmés ou infirmés, en fonction de ce que pourra nous dire la recherche en physique, il admet les difficultés que pose toujours pour l'heure l'existence de certaines propriétés non dispositionnelles. En particulier, l'existence de lois qui ne semblent pas dérivées, comme le supposerait le dispositionnalisme essentialiste, de disposition. C'est le cas en particulier des constantes fondamentales, qui sont des faits nomiques inexplicables en termes dispositionnalistes, même si on peut malgré tout imaginer un monde dans lequel les valeurs de ces constantes seraient légèrement différentes, bref, suggérer comme possibilité épistémique ce que fait, vous en souvenez, Einstein, que les savants découvrent par exemple que G n'est même pas une constante fondamentale. C'est le cas aussi des lois de conservation et de symétrie qui nous disent que toutes les interactions sont contraintes par des exigences de conservation, comme la masse-énergie ou le mouvement, et que l'univers déploie certaines symétries, au point du reste que certains estiment que ces lois reflètent l'essence du monde. Bon, Byrd reconnaît que c'est là un point important et un important défi pour un dispositionnaliste, même s'il y répond en disant que les lois de la conservation ont quelque chose de tout aussi mystérieux, en dépit de leur élégance mathématique, dit-il. Quant au principe de symétrie, ce sont des méta-énoncés sur nos lois. La conservation de l'énergie correspond au fait que nos lois ne changent pas avec le temps. Mais cela pose tout de même question, s'agit-il de lois authentiques? Et si oui, comment devons-nous les comprendre? Ne peut-on envisager que les principes de symétrie et les lois de conservation relèvent de certaines caractéristiques de notre forme de représentation, plutôt qu'il ne s'agit de traits du monde, exigeant du même coup que nous nous en accommodions aussi dans notre métaphysique? C'est le cas encore, vous voyez, pour les propriétés qui, effectivement, posent problème, du principe de moindre action, qu'on a du mal à décrire dans les termes d'une relation entre un stimulus et la manifestation d'une disposition. Puisque le principe de moindre action d'un système présuppose qu'à partir de son état initial, c'est-à-dire étant donné les propriétés intrinsèques essentielles du système dans son état initial, plusieurs évolutions différentes sont possibles. Donc le principe de moindre action s'entend donc comme une règle de sélection de l'une d'entre elles, mais il ne s'agit que d'une règle mathématique, pas de quelque chose qui dépendrait de l'essence d'une disposition. Alors que pour le dispositionnaliste essentialiste, une seule évolution, vous voyez, est possible, celle qui est fixée par les natures dispositionnelles essentielles des caractéristiques intrinsèques de l'état initial. Vous voyez ? Bon. Alors, sans doute, Byrd a raison de rétorquer ici que s'il est naturel de dire que le principe de moindre action choisit une voie plutôt qu'une autre, parmi des tas de voies possibles, les mathématiques du principe ne montrent en rien que de telles voies soient métaphysiquement possibles. Le sens de « possible », une fois encore, est ici purement logique et mathématique. Il suffit que l'on ne puisse déduire aucune contradiction de l'affirmation selon laquelle l'évolution du système suit une voie autre que la voie actuelle. En termes épistémiques, il se peut que les propriétés intrinsèques de l'état initial, autrement dit, ne rendent possible qu'une seule évolution en raison de l'essence dispositionnelle de ces propriétés. Néanmoins, c'est une manière de répondre, si vous voulez, en l'absence d'une connaissance complète de ces essences, il est possible que nous ignorions de quelle voie il s'agit. Bon. Donc un principe de moindre action est un instrument a posteriori censé donner la réponse. Mais cela n'interdit en rien qu'il soit lui-même nécessaire, que le chemin actuel le soit aussi, et que ces nécessités découlent des essences, en ce sens inconnues, des propriétés intrinsèques de l'état initial du système. Bon. Mais vous voyez, pour échapper à l'objection, et peut-être n'est-ce pas un hasard, Byrd est obligé lui-même de réintroduire un principe d'ignorance des essences, et donc de recourir à ce qu'il critique, et presque le plus, par ailleurs, en l'occurrence, au quiditisme. Donc, l'argumentation est extrêmement brillante et élégante et vraiment subtile, mais si c'est pour quand même parvenir sur le plan épistémique à une forme, au fond, d'humilité qui n'a rien à envier à celle de Lewis ou de Hume, je ne suis pas sûre qu'il soit totalement gagnant non plus. Bon, dans les autres cas de propriété, qui semblent bien aussi tout de même être un sacré caillou dans la chaussure du dispositionnaliste, bien, ce sont ces propriétés comme la masse qui obligent à faire intervenir une autre loi, en plus des lois issues des dispositions gravitationnelle. puisqu'on sait que la masse est une propriété fondamentale associée à deux dispositions, l'une inertielle, l'autre gravitationnelle. Donc deux propriétés pourraient être impliquées dans des lois distinctes conformément à la conception dispositionnelle. Mais s'il y a une troisième loi reliant ces deux propriétés, alors la troisième loi ne résultera pas de la nature des propriétés. Prenons la relation entre la masse gravitationnelle et la masse inertielle. Prima facie, du moins, il semble que nous ayons ici deux propriétés dispositionnelles. L'une dont l'essence est l'attraction mutuelle, l'autre, dirons-nous, dont l'essence est de gouverner la relation entre la force et l'accélération. Aucune de ces essences n'implique strictement l'autre. La masse gravitationnelle est analogue à la charge, à ceci près que la force pour la charge est répulsive. Mais la charge n'est pas reliée à la masse inertielle. Si on considère ces deux propriétés comme distinctes, on peut dire que tout corps possède l'une dans la même proportion exactement que l'autre. Autrement dit, on aurait bien affaire ici, vous voyez, à une loi qui ne serait impliquée par l'existence d'aucune propriété. Bon, Burl admet qu'en effet, sur ce point, il n'a pas de réponse satisfaisante à apporter et que, sauf à rejeter la conception de la masse employée dans la physique classique en faveur de celle que propose, par exemple, la relativité générale, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que la masse et l'espace-temps forment une paire dispositionnelle réciproque, chaque point de l'espace de l'espace-temps étant caractérisé par des propriétés dynamiques, c'est-à-dire sa disposition à affecter les propriétés cinétiques d'un objet à tel point, capturé dans le tenseur du champ gravitationnel à tel point. La masse de chaque objet serait alors sa disposition à changer la courbure de l'espace-temps, ce qui reviendrait évidemment à changer les propriétés dynamiques de chacun des points de l'espace-temps. Mais le principe d'équivalence d'Einstein qu'on aura ici reconnu n'est, admet Bird, que d'un secours somme toute limité malgré tout pour le dispositionnaliste, car la masse gravitationnelle et la masse inertielle se produisent séparément, en effet, dans les champs non gravitationnels. La leçon que tire Bird a le mérite, je crois, de l'honnêteté, que la physique présente un problème insoluble pour le dispositionnalisme, où en vérité une résolution de ces problèmes est là quelque chose que devra déterminer la recherche à venir. Et il considère fort justement, je le cite encore, qu'une métaphysique qui ne serait ni confortée ni menacée par différents résultats possibles en physique serait en même temps trop éloignée de la physique pour avoir de l'intérêt. Fin de citation. Bon, le problème, comme vous le voyez, est alors le suivant. Devons-nous complètement renoncer au dispositionnalisme et à tous les mérites, qu'il ne s'agit tout de même pas de passer totalement par la fenêtre, et notamment à la manière de prime abord plutôt convaincante dont il propose d'interpréter le lien entre les dispositions et les lois. Eh bien, avant de répondre à la question de savoir si les objections l'emportent ou non sur les mérites, ce sera donc à cette question qu'il faudra s'atteler la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui. Nous allons maintenant prendre quelques questions.